Seigneur, on te remet ce moment et je te remercie pour déjà ce qu'on a entendu, pour ces chants, pour ce partage de Bruno, pour ce Dieu merveilleux que tu es. Et Seigneur, nous le savons, mais nous voudrions encore le découvrir chaque jour un peu plus. Et nous te demandons de nous aider dans cette démarche. Je te prie de bénir ce partage et d'aider chacun qui écoute, autant ceux qui nous écouteront peut-être plus tard sur les MP3, sur l'Internet, et que tu nous aides à réaliser combien tu es merveilleux, tu es personnel et tu es présent à nos côtés. Et je te demande de nous apprendre à ouvrir nos yeux sur cette réalité, cette vérité, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, ce matin, j'aimerais vous parler de l'importance d'avoir une vision céleste. Et pour ça, on va lire un texte dans le livre des Actes. Un texte qui se trouve au chapitre 26, acte 26. C'est Paul qui se défend devant le roi Agrippa. Au verset 1, on voit ça. Et il a été arrêté et il a fait appel à Jésus. Au chapitre 22, en fait, il a témoigné à son peuple, aux Juifs. Il était à Jérusalem. Et lorsqu'il a parlé de Jésus, de sa mort, de sa résurrection, ils n'ont rien dit. Mais au moment où il a déclaré, c'est au chapitre 22, au verset 21, il est dit, c'est Paul qui dit, « Alors il m'a dit, c'est Jésus qui lui parle à Paul, il lui dit, « Va, je t'enverrai au loin vers les nations. » Et là, le peuple tout entier, verset 22, ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole, mais alors ils élevèrent la voix, disant « Ôte de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. » Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Et en fait, ils ont failli lui faire la peau, hein, le lyncher sur place. Donc il a été arraché par les Romains, il a été emprisonné, ils ont commencé. Donc à partir de là, il a été en prison, l'apôtre Paul. Enfin, il avait peut-être déjà fait la prison avant, mais là, en tout cas, je ne sais pas s'il avait fait la prison avant. En tout cas, là, il est emprisonné. Et puis il se retrouve devant le gouverneur ou devant Festus et puis devant le roi Agrippa où on lui demande d'expliquer son cas. Et voici ce qu'il dit. Donc il explique un peu d'où il vient, comment il était un juif zélé, tellement zélé qu'il persécutait l'Église. Et qu'il était en route pour Damas, il avait des lettres pour justement arrêter les Juifs qui s'étaient convertis et qui étaient rentrés dans la secte du christianisme, parce que c'était comme ça qu'il le pensait, qu'il le voyait. Et donc il explique pourquoi il est mis en jugement. Alors il lui dit au verset 8 que maintenant il prêche la résurrection de Jésus-Christ. Au verset 8. Et donc, verset 9. Pour moi, j'avais dû, donc on est dans acte 26, hein, pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Donc c'était un religieux pharisien zélé pour persécuter l'Église. Hein, et il croyait bien faire. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem, j'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Et je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, je les forçais à blasphémer, dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Je n'ai point résisté à la vision céleste. Une vision céleste. Proverbe 29, 18, dans la traduction Darby, nous dit « Quand il n'y a point de vision ou de révélation dans second, le peuple est sans frein, mais bienheureux celui qui garde la loi. » Donc sans vision, sans révélation, on est sans frein, on s'égare, on tourne en rond. Alors, essayez de suivre un petit peu mon... On va revenir à ce texte, mais j'aimerais prendre un petit peu de recul et repartir. Chacun d'entre nous, on vit sur la terre. Jusque-là, je pense que vous êtes d'accord. Sous le soleil, vous verrez, c'est important. On est bien réel. Nous respirons, nous parlons, nous sentons, nous touchons, nous voyons, nous goûtons, nous bougeons, nous agissons, on est là. Pincez-vous pour voir si vous êtes bien là. Vous n'êtes pas dans un rêve, vous êtes là, d'accord. La question, c'est est-ce que nous sommes que juste matière et réaction chimique? Certains, beaucoup le croient, beaucoup le pensent. Mais en même temps, dans notre vie, on ne fait pas que ça. Aussi, nous pensons, nous rêvons, nous imaginons, nous faisons des choix moraux, nous jugeons, nous espérons, nous nous émouvons. Nous nous inquiétons aussi. Nous aimons. Et la liste pourrait être grande. Ça, ce n'est pas que des réactions chimiques, tout ça. La pensée, rien que la pensée. Imaginer, rêver des choses. Avoir la conscience du bien, du mal. Donc, parce que nous, qui sommes réunis, la plupart d'entre nous, je pense ce matin, nous croyons que nous avons été créés par Dieu. Et que tout ce qui est visible, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche, tout ce qui est concret, tout ce qui est matériel, tout ce qu'on... Voilà, c'est une évidence. Ça a été formé par la parole de Dieu. Dieu a parlé, il y a un créateur, il a parlé, les choses sont venues à l'existence. Et j'aime ce verset qui nous explique que le monde visible vient du monde invisible. Alors aujourd'hui, je ne le vois pas, ça n'existe pas. J'aimerais vous dire que ce genre de raisonnement est très primaire. Il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas vues. Jules César, vous ne l'avez pas vu. Il y a quelqu'un qui a vu Jules César ici? Bon. Mais personne ne remet en question son existence. Bon, Jésus, personne ne l'a vu. Enfin, si, il y en a qui l'ont vu. Il y en a qui l'ont vu il y a longtemps. Mais peut-être qu'il y en a qui ont eu des visions, on verra ça. Mais il y en a qui doutent qu'il a existé. Aujourd'hui. D'accord? Mais parce que Jésus, il dérange plus que Jules César. Jules César... On voit quelques vestiges ici à Nîmes, on a des arènes, on a des, voilà, des vestiges qui sont magnifiques d'ailleurs et qui ont tenu le coup quand même. Je ne sais pas si nos maisons tiendront 2000 ans. Hein. Donc, la Bible nous dit qu'en fait, en Hébreux chapitre 11, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. D'accord ? La matière n'est pas arrivée comme ça par hasard. Il y a un Dieu esprit qui a parlé et la matière est venue, l'espace, le temps, la force atomique pour que, vous savez que si à un moment donné, la Bible dit dans Hébreux chapitre 1 et verset 2 ou 3 que Jésus soutient le monde par sa parole puissante. Imaginez que juste l'énergie atomique ou l'équilibre des forces atomiques venait à plus être équilibré. Il n'y a plus un atome qui tiendrait ensemble, hein. Vous pensez que nous, on irait loin? Si la matière venait à s'éparpiller? si les protons, neutrons et électrons et qui font l'atome ne tenaient plus ensemble? Qui c'est qui tient ça ensemble? Le hasard. Non, je vais vous le dire, qui c'est qui tient ça ensemble? C'est Dieu, c'est sa parole. C'est Jésus-Christ qui est à l'origine de cette vie, qui est à l'origine de cette matière, qui est à l'origine de nous. D'accord? Donc, Dieu ne nous a pas donné seulement un corps physique, il nous a donné aussi une âme, un esprit. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, trois parties. Et j'aimerais vous dire qu'on ne dénigre ni l'une ni l'autre. Parce que dans la philosophie, dans certaines philosophies humaines, notamment les Grecs, ils dénigraient le corps en disant ça c'est la matière, c'est mauvais, c'est... Non, 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 Dieu nous a donné un corps. Et il nous a donné un corps, et dedans il y a une âme, il y a un esprit. L'esprit est éteint jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre avec Jésus-Christ. D'accord ? C'est ça la nouvelle naissance, c'est que quand on accepte, quand on met notre foi en Christ, quand on croit qu'il est le Sauveur mort sur la croix pour nos péchés, et ressuscité pour nous offrir le pardon et la vie éternelle, et qu'on reçoit ce cadeau de la vie éternelle, du pardon des péchés, ben le Saint-Esprit, notre esprit s'illumine grâce au Saint-Esprit qui vient demeurer en nous. Et là, on fonctionne comme Dieu nous a créés au commencement. D'accord ? Donc ça, c'est la différence entre un croyant en Jésus-Christ et un non-croyant. Le non-croyant est mort. Spirituellement, il est mort. Éphésiens chapitre 2, on était mort dans nos péchés. Il est mort spirituellement. Ça ne veut pas dire qu'il ne vit pas, ça ne veut pas dire qu'il ne pense pas, ça veut dire qu'il ne fait pas des bonnes choses des fois, il fait des bonnes choses. Alors, ma question, si on n'est pas que de la matière et que des réactions chimiques, que faisons-nous de notre vie ? Où allons-nous ? Que désirons-nous ? Que cherchons-nous ? Et j'aimerais vous dire que chacun d'entre nous, on a des désirs, on a des attentes, on a des projets qui en fait emportent nos vies d'une certaine manière. Et la tragédie qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés, c'est que ces choses-là sont souvent façonnées, tous ces projets, ces désirs, ces attentes, par toutes les influences extérieures de notre époque, de notre monde dans lequel nous vivons. Parce que ça construit en nous ce monde autour de nous, notre culture, les informations, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on entend aujourd'hui. Il y a 100 ans, on n'avait pas accès à autant d'informations. Vous savez que, je ne sais pas, je ne sais plus, peut-être je vais me tromper, mais les informations qui sortaient dans un journal il y a peut-être 150 ans ou 200 ans, la somme des informations, c'est ce qui se passe aujourd'hui en un microseconde qui passe sur les fils, l'internet, les machins, la communication. Je veux dire, on est dans un monde qui bouillonne aujourd'hui, de tas de choses, d'accord, de tas d'informations, de tas de connaissances. Et malheureusement, en fait, ça forge en nous ce qu'on appelle, ce que souvent je dis ici, des fictions directrices. Et c'est quoi une fiction directrice ? C'est une idée qui est communément acceptée dans la société, qui offre les moyens d'atteindre un objectif de vie tel que la réussite ou le bonheur. Et si on cherche un peu, vous allez creuser, vous allez voir que vous avez, chacun d'entre nous, on a des fictions directrices. Par exemple, pour nos jeunes, ce qu'on leur inculque, pour réussir sa vie, il faut avoir des diplômes. Il faut bien réussir à l'école, pour avoir un bon métier, bien gagner sa vie, beaucoup d'argent. C'est inculqué, c'est inconscient, c'est là, c'est dans notre façon de vivre, d'accord ? C'est dans notre schéma, sans qu'on s'en rende compte. Pour nous, vivre, c'est grandir, c'est faire des choix, c'est avoir des priorités, c'est aller de l'avant. Hein ? On va de l'avant, mais vers où ? Qu'est-ce qu'on poursuit ? Qu'est-ce qui nous fait avancer ? Je crois que beaucoup de gens, en fait, et une majorité d'hommes et de femmes aujourd'hui, vivent au jour le jour, sans même avoir une vision terrestre. J'essaye d'introduire le sujet d'une vision céleste, mais il y a des gens qui vivent sur Terre sans même une vision terrestre. Ils sont juste des consommateurs, ce monde leur offre tout ce qu'il faut pour assouvir leurs passions. Ils butinent de ci, de là, au petit bonheur, la chance. Et ils se laissent emporter par le mouvement, par le flow, par les modes, par le dernier qui a parlé, le dernier film, la dernière chanson. Et malheureusement, on vit un petit peu comme ça aujourd'hui. Je pense que, et pourtant, nous, on est les Français. C'est nous, on nous a inculqué d'avoir un esprit critique, et on gobe les choses, et on avale les choses sans réfléchir. Juste voilà, on ne pense plus aujourd'hui, on pense de moins en moins, tragiquement. Donc dans cette confusion ambiante, il arrive pourtant qu'on ait quand même des choses que l'on désire particulièrement et qu'on se donne peut-être l'objectif, un objectif et qu'on s'y tienne. C'est-à-dire qu'on va être prêt peut-être à renoncer à des intérêts secondaires pour atteindre le but escompté. Vous pouvez imaginer, par exemple, dans les JO, les sportifs qui sont en train de préparer pour faire le spectacle là, au mois d'août, mois de juillet au mois d'août. On peut imaginer qu'ils se sont préparés, ça fait 4 ans qu'ils se préparent pour ça. Et ils doivent avoir un emploi du temps minuté, une discipline de vie dans la nourriture, dans leur sommeil, dans leur repos, dans leur exercice, dans leur pratique, dans leur technique, dans le battement du cœur, l'entraîner, en fait, dans tous les domaines. Parce que s'ils veulent réussir, il faut qu'ils soient. S'ils veulent sortir du lot, il faut qu'ils soient au top, n'est-ce pas? Mais parce qu'ils ont cet objectif et ils y arrivent. Mais j'aimerais vous dire, ça c'est un. Ils ont une vision terrestre. Leur vision, c'est quoi? Une médaille d'or au JO. C'est ça leur but, c'est ça leur vision. Et parce qu'ils ont cette vision, ça les garde de tourner en rond et de faire n'importe quoi. Vous comprenez? Mais ça, c'est pour une médaille en or, terrestre, pour un moment de gloire éphémère. Dieu nous propose d'avoir une vision céleste, pour une gloire éternelle, avec un Père éternel, comme on vient de le voir. On n'est pas dans la même dimension. Mais on va comprendre, on va voir que quand on a une vision céleste, eh bien, comme eux qui ont un but, qui ont un objectif, qui ont une vision pour eux, une vision terrestre, ça les cadre. Eh bien, nous, si on a une vision céleste, ça va nous aider aussi à tendre et à aller vers quelque part. Parce qu'on y va tous. Mais où on va? Donc, c'est grâce à cette vision qu'on peut garder le cap, qu'on peut faire face aux difficultés, aux découragements, aux échecs, aux oppositions, parce qu'il y en a. Ma question, c'est quelle est votre vision? Vers où courez-vous? Quel but? Quel objectif? Quelle fiction directrice profonde vous anime? Et je pense que d'avoir une vision pour sa vie sur la Terre, c'est une bonne chose, parce que ça nous amène quelque part, d'accord? Au lieu de tourner en rond sur nous-mêmes, c'est ce que les gens font aujourd'hui, ils tournent comme des toupies sur eux-mêmes et leurs émotions dans tous les sens. Et ils ne sont pas heureux, hein, en plus. Ça nous éparpille de vivre comme ça. Ce qui est triste, tragique, c'est que c'est lorsque les chrétiens, des croyants, des enfants de Dieu vivent soit sans vision du tout, soit seulement avec une vision terrestre, sans avoir une idée de ce qu'est une vision céleste. Et c'est le sujet de ce matin, n'est-ce pas? On est bien d'accord, on croit tous que notre vie n'est pas que terrestre. Que la mort, aussi terrible qu'elle soit, n'est pas juste la fin de vie. Le monde pense comme ça, qu'il n'y a plus rien après, donc on mise tout sur le terrestre. Mais nous, on croit que Jésus-Christ est ressuscité, on croit que la mort n'est pas la fin, c'est juste une nouvelle étape. Une nouvelle étape qui nous amène dans l'éternité. Alors l'éternité avec Dieu, pour nous qui croyons, pour ceux qui ne croient pas, on en a parlé tout à l'heure, et c'est pour ça qu'on évangélise, c'est pour ça qu'on a à cœur pour nos familles de prier qu'ils se convertissent, parce que la Bible ne parle pas de l'annihilation de l'âme des méchants. Elle parle de la géhenne, un feu éternel. Hein, Jésus en parle lui-même. Donc l'enfer, c'est vrai que le mot, il n'est pas dans la Bible, hein, mais l'enfer, cette idée qu'on a, vous savez, des fois les gens, ils passent une mauvaise journée, ils disent, oh, c'était l'enfer aujourd'hui. C'était l'enfer au travail, c'était l'enfer en voiture, c'était l'enfer. Non, c'est pas l'enfer. C'est un mauvais moment, certes, mais ça n'a rien à voir avec l'enfer. Parce que quoi qu'on vive ici, il y a toujours une possibilité de rédemption. En enfer, c'est fini. Il n'y a pas de purgatoire, hein. Il n'y a pas un petit moment où on va réparer un peu ce qu'on n'a pas bien fait, puis ça ira après. On paye pendant quelques années ou quelques décennies, puis après on... Non. C'est soit on est dans la présence de Dieu, soit on est séparé de Dieu pour l'éternité, et c'est tragique. C'est tragique. Hein? J'aimerais vous dire que pour nous, ne nous trompons pas d'objectif. Vous connaissez ces versets, Matthieu 6, 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. » Verset 20, « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Vision céleste, c'est pour s'amasser des trésors dans le ciel. « Où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » C'est un trésor éternel qui ne peut être, qui ne peut nous être enlevé. Ici, j'aimerais vous dire, vous pouvez avoir une valise de lingots d'or quand vous partirez, et votre valise, elle restera ici sur la terre. D'accord ? On peut la mettre dans votre cercueil, mais ça ne vous aidera pas de grand-chose. Car là où est ton trésor, là où aussi ton cœur. La question, c'est où il est notre cœur ? Où il est notre trésor ? Est-ce qu'on est, on vit ici avec juste une vision de réussir sa vie, d'être heureux, d'être confortable, d'être sécurisé, d'avoir tout ce qu'on veut, de faire tout ce qu'on a envie ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que ça ? Parce que ça, c'est ce que le monde nous propose. Hein ? Où il y a une vision plus grande que ça ? Une vision céleste. Parce que si on vit, j'aimerais vous dire, si on vit sur la terre, écoutez bien, si on vit juste sur la terre, et ça on y est sous le soleil, et ça on y est aussi, l'Ecclésiaste dit au verset 2 du chapitre 1, « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. » Que tu fasses ça, 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 pas ça, c'est... Il n'y a rien d'éternel, c'est terrestre, ça passera. Il n'y a que Jésus-Christ et la parole qui est éternelle. Et cette parole qui peut être... gravé dans nos cœurs, cette image qui peut être façonnée, c'est le projet de Dieu pour ses enfants. Donc sans vision céleste, en fait, nous marchons ici-bas comme des aveugles. Et j'aimerais vous dire que ceux qui nous dirigent dans ce monde, malgré leur connaissance méga gigantesque, j'ai inventé le mot exprès pour ce matin, en fait, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles et qui finiront par tomber dans la fosse. Matthieu chapitre 15, verset 14. Les paroles de Jésus. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas faire de reproche aux non-croyants de n'avoir au mieux qu'une vision terrestre. Il n'y a que ça qui existe pour eux. Mais quand Jésus parle de ces aveugles, là où il mentionne ces aveugles, ce ne sont pas des rois, des ministres, des gouverneurs, des philosophes. Vous savez, la philosophie, c'est pas mal. C'est des gens qui essayent de penser pour essayer de vivre le mieux possible sur Terre. Mais ça s'arrête là. Ça ne va pas plus loin. Parce qu'il n'y a plus rien après. La philosophie, c'est juste pour essayer de vivre le mieux possible sur la Terre. Ça n'a rien à voir avec la religion, qui, elle, s'intéresse à ce qu'il y a après, pour pouvoir vivre sur la Terre autrement. Vous me suivez toujours ? Donc, ici, en fait, c'est Dieu, Jésus parle des pharisiens qui sont aveugles. C'est des responsables religieux, d'accord ? Ceux-là même qui devraient instruire les individus à posséder, à découvrir et posséder une vision céleste, ceux-là même là, ils les en empêchent par leurs règles, par leurs dogmes, par des règles terrestres simplement, par de la religiosité, par des choses à faire, à paraître, n'est-ce pas ? Et en fait, ils privent les gens, et c'est ce que Jésus leur faisait, il était dur avec les pharisiens, parce qu'il privait les gens de la vérité de la grâce, c'est-à-dire de la personne de Jésus-Christ, de celui qui peut nous offrir une vision céleste, en vérité. L'origine d'une vision céleste, c'est une rencontre avec Jésus-Christ. C'est à un moment donné, nos yeux s'ouvrent. Alors, évidemment, nous, on pourrait dire, ouais, mais ça, Jésus s'adressait aux pharisiens à l'époque, et c'est vrai qu'ils en tenaient une couche, quand même, pour s'opposer à lui, pour quand il fait des miracles, pour dire que c'est Belzébul, c'est au nom de Belzébul qu'il fait les miracles. D'accord ? Il veut vraiment être endurci dans son cœur pour ne pas reconnaître que c'était le Messie. Ils avaient toutes les prophéties devant eux, ils savaient tout, et ne voulait pas le voir, d'accord ? Le cœur était vraiment endurci. Mais on peut se dire, bon, nous, on a Jésus, maintenant, on est après, ça ne nous concerne pas. J'aimerais vous dire, ça concerne chacun d'entre nous, et peut-être plus particulièrement nous aujourd'hui, en tant qu'Église de Laodicée. Apocalypse chapitre 3, verset 17, c'est justement Jésus qui parle à l'Église et dit « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Quand on est juste dans un système religieux, on est aveugle. On ne voit pas, on est pauvre, on est misérable. On s'accroche à des choses, mais on n'a pas cette intimité avec Dieu, on n'a pas cet émerveillement de Dieu, on n'a pas cette relation, cette connaissance de Dieu, cette communion avec Dieu. Tragiquement. Et je voulais vous dire que c'est facile d'avoir les yeux, d'avoir des yeux et de ne pas voir, d'avoir des oreilles et de ne pas entendre, d'avoir un cœur séduit par les trésors terrestres. Hein, c'est Matthieu chapitre 13, versets 14 et 15. Je reviendrai sur Matthieu 6, 22. Il dit « L'œil est la lampe du corps ». C'est le texte qu'on a lu tout à l'heure, hein, vous rappelez. On a lu dans Matthieu 6, 19 de ne pas s'amasser des trésors sur la terre, mais dans le ciel. Et il continue au verset 22. « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres ?» J'aimerais dire, c'est pour nous les chrétiens. Pour traduire dans ce que je suis en train de dire ce matin, c'est pour nous les chrétiens qui avons été illuminés à un moment donné parce qu'on a réalisé qu'il y avait un Dieu, qu'il y avait le Seigneur Jésus-Christ qui nous a parlé, qui s'est révélé à nous. Et on va voir ce que c'est cette vision céleste. Quand est-ce qu'on l'a la première fois qu'on a eu contact avec cette vision céleste? C'est la conversion, évidemment. Mais si cette lumière-là, on ne continue pas de l'entretenir et de continuer à être ébloui par notre Dieu, par la découverte de sa personne au travers de la lecture, de la méditation, de l'étude des Écritures, ben on risque de devenir des pharisiens, tout simplement. Et notre œil, on voit, mais on voit que des choses terrestres, on voit que les problèmes, on voit que nos limites, on voit plus Dieu. On est aveugle. Et pourtant, pensez pas qu'il est là tout le temps, Dieu. Mais par moments, on le voit pas. Par moments, on est aveuglé par ce qu'on voit avec nos yeux naturels, et les yeux du cœur, d'Éphésiens chapitre 1, verset 18, sont fermés. Voilà, on ne voit pas. On ne voit pas. On a besoin, et pour ça, on a besoin évidemment du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'une vision, une vision céleste ? Ben, c'est une rencontre avec Jésus. C'est la conversion. Ça commence là. Lorsqu'à un moment donné, et des fois, ça peut prendre plus de temps pour certains que pour d'autres, il y en a qui se convertissent jeunes, il y en a qui se convertissent plus tard, mais à un moment donné, on plie le genou et nos yeux s'ouvrent et on accepte, on croit en Jésus. C'est pas, alors, je ne peux pas dire que j'ai vu Jésus physiquement, mais je peux dire que j'ai vu Jésus. Il y a eu un avant et il y a un après. Comme l'aveugle dans Jean chapitre 9. Avant, j'étais aveugle, maintenant, je vois. Celui qui était partout présent, je ne le voyais pas avant. Mais maintenant, je. Waouh! Mais je vois, il est là, il est dans ma vie, il parle, il me parle, il a des réponses à mes questions, à mes attentes. Il a un projet pour ma vie. Donc, lorsqu'on revient au texte d'Acte 26, quand Paul parle à Agrippa, il parle de pas simplement d'une vision, en fait, il parle de ce qui lui est arrivé en Actes chapitre 9, de sa conversion. Quand il était sur le chemin de Damas, d'accord ? En Actes chapitre 9, peut-être on va y tourner. Actes chapitre 9. Alors c'est intéressant dans ces chapitres, parce qu'il raconte plusieurs fois son histoire de comment ça s'est passé sur le chemin de Damas. D'accord ? Et il y avait des témoins avec lui parce qu'il était en route pour Damas, donc il devait peut-être, je ne sais pas, une petite armée avec lui pour arrêter les chrétiens, parce qu'il ne le faisait pas tout seul avec ses petits muscles. Il était Paul, il n'était peut-être pas un grand costaud. Ce n'était pas Pasteur Johann, c'était, voilà, ou Philippe Seradji, pour ceux qui connaissent. Et donc ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, Actes chapitre 9 verset 3, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, donc on vient. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, dans Actes chapitre 9, au verset 7, il est dit « Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. » Et puis, il le raconte aussi dans Actes chapitre 22, et il dit « Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. » Et alors, tu te dis, mais c'est quoi ? Ils ont vu, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas entendu, ils ont entendu, je ne comprends rien. En fait, quand tu te convertis, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la conversion, c'est un acte de foi personnel. C'est toi et Dieu. Il peut y avoir des gens qui regardent autour, qui se posent des questions, mais ils ne voient pas. Alors, ils ont peut-être l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une nouvelle lumière dans ta vie, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe. Tu parles peut-être maintenant différemment, mais eux, ils n'entendent pas ni ne voient. Ils aperçoivent qu'il y a quelque chose, ils entendent peut-être un bruit, mais ils ne comprennent pas, parce que ça ne les concerne pas, eux. C'est entre Dieu et Paul. C'est une rencontre entre Dieu et Paul. Alors, c'est un témoignage peut-être pour eux, de faire après leur propre cheminement et leur propre pas de foi. Mais des fois, quand tu lis la parole de Dieu, tu dis, bon, là, c'est pas très net, tout ça. Mais quand tu approfondis, tu te rends compte qu'en fait, c'est très clair. C'est que Paul, lui, il voit et il entend. Il voit Jésus et il entend Jésus. Et quand on parle de vision céleste, c'est pas juste de voir des choses. Ça vient aussi avec entendre et recevoir ce que Dieu a à dire. Est-ce que Dieu dit ? Et là, Jésus vient chercher Paul. Et vient, c'est un changement total de direction. Il était en train de persécuter l'Église et maintenant il va être le plus grand serviteur de l'Église. Ça s'appelle la repentance. Il allait dans cette direction, maintenant il va dans cette autre direction. Il prêchait, il mettait en prison et tuait les chrétiens et maintenant il va être lui-même un chrétien et il va servir les chrétiens au prix de sa propre vie et de beaucoup de souffrances d'ailleurs. Et c'est ce qui va lui être dit. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On pourrait dire, ben là, Dieu va lui raconter tout. Ben, en fait, c'est assez sobre. D'abord, il tombe de cheval, et ses compagnons avec, il y a la lumière, et Dieu lui parle, et après Dieu lui dit, ben, tu vas aller... qu'est-ce qu'il lui dit ? Alors, ce qui est beau, c'est de voir comment Paul, face à cette vision, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tout change maintenant. Vous comprenez, quand tu as cette vision céleste, c'est qu'est-ce que je vais faire avec ma vie ? C'est plus, je vais faire ceci pour moi, je pense. Non, j'ai rencontré le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et il est prêt à se soumettre pour entrer dans... Voilà, celui qui pensait servir, en fait, il... Vous voyez comment on peut être trompé ? Si on n'a pas une révélation de Dieu ? Et c'était quelqu'un qui connaissait les Écritures, mais son esprit était éteint. Il avait besoin du Saint-Esprit. Il avait besoin de voir. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. C'est pour ça que la conversion, je peux vous dire, la vie chrétienne sans conversion, il n'y a pas de vie chrétienne. C'est des vies religieuses, c'est des vies morales, c'est des vies qu'on copie, on essaye de faire pareil qu'eux, mais il n'y a pas de vie. C'est du pharisianisme, en réalité. Hein ? Et ce qui fait la différence, c'est quand le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit se révèle, nous éclaire, nous éblouit, nous émerveille, nous convainc, et on commence à découvrir qui est ce Jésus. Et j'aimerais vous dire, moi, ça fait bientôt 40 ans que je suis chrétien, et je suis au balbutiement de qui est ce Jésus. C'est-à-dire, ah ben non, tu l'as lu déjà plein de fois, c'est bon, tu n'as pas autre chose, tu n'as pas un autre livre. Non, mais je veux dire, recommence. Parce que là, tu vas découvrir que ce Jésus, il est encore plus grand. La grâce est encore au-delà de ce que tu pensais. L'amour de Dieu, mais tu pensais que tu connaissais l'amour de Dieu. Mais tu ne connais pas l'amour de Dieu. Et c'est ça dont on a besoin. C'est de constamment, maintenant, cette vision qu'on a eue, qu'elle soit fortifiée, encouragée. Et j'aimerais vous dire que... Quand on ouvre la Bible, on n'a pas tout de suite la lumière, la parole, le Saint-Esprit qui nous illumine. Et quelquefois, on se décourage, on dit, bon, ben, ça ne parle pas, je ne comprends rien, bon, allez, je ferme le livre. On est tous comme ça. Et j'aimerais vous dire c'est là qu'il ne faut pas perdre cette vision céleste. Et pas simplement faire ce qui me plaît, ce qui me convient, mais faire ce que Dieu me demande de faire. Continue de chercher, continue de se rassembler. Ah, ça fait longtemps que Dieu ne m'a pas parlé au culte. Mais je suis là. Et je crois, et j'attends, et j'espère qu'à un moment donné, il va ouvrir mes yeux, il va toucher mon cœur. Et je prie pour que le prédicateur, le pasteur, puisse apporter quelque chose qui ne soit pas juste des mots, mais qui soit la vie, l'onction, la présence de Dieu, la personne de Jésus-Christ. Donc, on lit toujours dans Acte... Là, on est dans Acte... Acte 9. Donc, il lui dit de... Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Pardon, je me suis un peu perdu. Alors, le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Attends, Seigneur, tu me parles, tu te révèles, je ne comprends pas ce qui m'arrive, et maintenant c'est d'autres qui vont me dire ce que je dois faire. Le corps de Christ. J'aimerais vous dire, la vie chrétienne, on a tous le Saint-Esprit, on a tous un accès direct à Jésus, il est le seul médiateur entre Dieu et nous, entre le Père et nous, c'est Jésus-Christ. On n'a pas besoin de passer par un pasteur, par un prêtre. On va directement à lui, on peut s'adresser directement à lui. Mais on a besoin les uns des autres. Dieu parle dans l'Église. Dieu se révèle à l'Église. Dieu, hein, celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Dit à qui, dans l'Apocalypse? Combien de fois c'est répété? À toutes les Églises. Ce que l'Esprit dit à l'Église. Est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas me parler personnellement? Bien sûr qu'il peut te parler personnellement. Et c'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on désire, qu'il nous parle personnellement. Et qu'on puisse tous parler avec l'Esprit de Dieu, les uns envers les autres, et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais il parle particulièrement à travers l'Église. C'est pour ça qu'on se rassemble. C'est une folie, la prédication de la croix. 1 Corinthiens 1, 18. C'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, c'est la puissance de Dieu. C'est là que Dieu parle, c'est là que Dieu se révèle. C'est là que Dieu me convainc dans mon cœur. C'est là que Dieu m'aide à toujours, quoi, nourrir cette vision céleste. Ne pas toujours être émerveillé par Dieu. Ne pas devenir blasé avec Dieu. C'est ça, de ne pas devenir familier dans le mauvais sens du terme. On est proche de Dieu, c'est notre papa. Mais on n'est pas familier dans le sens qu'on se... Oh, il est là, mais bon, tu es là, mais c'est moi, j'ai ma vie à vivre. On se verra plus tard. Non, il est là, mais j'ai besoin de lui là maintenant. Et je ne le sais pas toujours. Parce que des fois, je suis aveuglé par mes richesses, par ma vie terrestre. Elle est bien, ma vie terrestre, des fois. C'est pas vrai? Tellement bien que des fois, je... Ciao! On se verra plus tard. Alors, donc, il y va. Et puis, il y a le frère Ananias. Le frère, un frère qui vient. La communion fraternelle. Et qu'est-ce qu'il fait, le frère Ananias? Donc, il a un peu peur d'y aller parce qu'il sait qui c'est. Et il se dit, mais tu veux que j'aille le voir, lui? Mais il va me mettre en prison. Je vais mourir, hein, si je vais le voir. Il reste quand même pendant 3 jours. Il est dit que quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Hein? Il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, il ne mangea ni ne but. Et puis là, Dieu appelle Ananias qui va aller le voir. Donc Dieu aurait pu dire au premier jour, tu vas vite voir Paul parce que ça fait déjà un jour qu'il n'a pas mangé, qu'il n'a pas bu. 3 jours. On ne connaît pas toujours le timing de Dieu, comment il fait pour parler quand il se révèle, quand il intervient. Et Paul n'avait pas prévu que Jésus allait le rencontrer sur la route de Damas. Bruno, tu n'avais pas prévu que Dieu te touche particulièrement hier. Mais on était là, et on croit Dieu, et on fait confiance à Dieu. Et Dieu, ben, il y a des moments où il nous touche. Comme dans l'histoire des... On n'a pas le temps ce matin de regarder ça, mais dans l'Ancien Testament, regardez tous les hommes que Dieu a utilisé, dans la vie desquels il a travaillé, ils ont eu des rencontres avec Dieu, ils ont eu des autels avec Dieu, ils ont eu des moments, et ce n'était pas tout le temps. Ce que je veux dire par là, c'est que cette vision, on l'a eue à notre conversion, et que de temps en temps, parce qu'on vit avec Dieu, parce qu'on écoute Dieu, ben, Dieu sait quand on a besoin d'être rafraîchi, quand on a besoin d'être visité, quand on a besoin d'être ébloui de nouveau. Ce n'est pas qu'on se reconvertit, hein. On ne se reconvertit pas, mais tout d'un coup, waouh! Nos yeux, en fait, nos yeux étaient juste sur les choses terrestres. Et là, tout d'un coup, nos yeux se lèvent et on voit Jésus. On voit Jésus dans nos situations, dans nos difficultés, dans nos problèmes, dans nos joies, quelquefois, dans l'adoration, dans la reconnaissance. Parce que la reconnaissance, c'est merveilleux, la reconnaissance, de voir que Dieu nous bénit malgré tout. Hein? Donc, et on va s'arrêter là. Et après, j'aimerais demander à Arnaud s'il veut faire ce chant de Toupin. Donc Dieu l'a envoyé, verset 17, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et les recouvra la vue. Et il fut rempli, il se leva et il fut baptisé. Et le Saint-Esprit était là. c'était un nouveau Paul. C'était, avant c'était Saul, et maintenant c'est Paul. Dieu lui donne un nouveau nom, une nouvelle identité, et maintenant une nouvelle vie, avec une vision céleste. Maintenant, c'est plus je vis pour moi-même, je vais faire ceci, je vais faire ce qui me plaît, je vais faire ce qui m'arrange, je vais essayer de trouver un endroit pour trouver la... Non, non, la paix, elle se trouve où? Avec le prince de la paix. Pas ailleurs. La paix, elle se trouve où? Elle se retrouve dans la communion avec le Seigneur, la communion avec le corps de Christ. Il n'y a pas d'autre endroit. Donc, j'aimerais vous dire, aujourd'hui, on ne peut pas simplement se contenter de vivre simplement sur cette terre avec une vision terrestre. Donc, cette vision céleste, elle s'entretient. Et je crois que Matthieu 4,4, c'est un verset tout terrain, comme aime bien l'appeler comme ça Pasteur Pierre. Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voulez une vision céleste ? Ben, il faut nourrir son âme, son esprit par la parole de Dieu. L'entendre, la méditer, l'étudier, la comprendre, la mettre en pratique. Et quand on a une vision céleste, vous savez quoi ? Il y a des choses qu'on ne fait plus, parce qu'on ne peut pas tout faire. Vous ne pouvez pas être là et à la pêche en ce moment. C'est très bien d'aller pêcher, mais pas le dimanche matin, quand on se réunit. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, quand on a cette vision céleste, il y a des choses qu'on ne fera plus parce qu'il y a d'autres choses qui prennent la place. Et on ne peut pas tout faire en même temps. N'est-ce pas ? On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Et l'un ou l'autre. On vit de quoi ? Notre vision céleste ou simplement une vision terrestre ? C'est Mammon, c'est la sagesse d'en bas. Qui est charnelle et diabolique, d'ailleurs. Dans Jacques chapitre 3. Donc, je vais m'arrêter là pour... Ce matin, on me le rappelle, la sonnerie me le rappelle, c'est l'heure, c'est parfait. Si Arnaud, tu veux bien venir. Et pendant ce chant, j'aimerais juste vous encourager pour deux choses. La première, pour ceux qui n'ont jamais peut-être accepté Jésus dans leur cœur, ils n'ont pas, c'est juste religieux, c'est juste le désir de bien faire, de vouloir faire plaire à Dieu, mais juste aujourd'hui de peut-être dire, bah, Dieu, viens dans ma vie, et c'est, juste ouvre mes yeux. Permets-moi de voir, d'être ébloui, d'être touché, d'avoir cette rencontre. Et puis pour nous qui avons déjà été, qui sommes convertis, qui avons déjà été éblouis par Dieu, ben demandons à Dieu qu'il nous éblouisse et qu'il nous aide à rentrer dans ses projets à lui, dans sa vision à lui, dans ses plans à lui. Que veux-tu que je fasse, Seigneur ? Parce que j'aimerais vous dire beaucoup d'énergie et beaucoup de temps perdu à faire ce que nous on pense qu'on devrait faire pour Dieu. Sans avoir écouté, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et la première chose que je veux vous dire, c'est de vous asseoir et c'est d'écouter et c'est de prier pour que Dieu illumine votre cœur. De prier pour que, quand on se rassemble, quand on demandez à Dieu, quand on se rassemble, ce n'est pas juste un homme qui parle, c'est Dieu qui, à travers un homme, il utilise un homme. Il peut m'utiliser moi et ceux qui prêchent ici pour nous parler, pour se révéler, pour nous guérir à l'intérieur, parce qu'on est tous... On est tous brisés, on est tous cassés quelque part. Et c'est sa parole qui nous guérit, qui nous restaure, qui nous relève et qui nous équipe pour vivre cette vie ici-bas. Mais pas que pour ici-bas, parce qu'on a... Et on reviendra sur le sujet parce que je crois que c'est important. Merci pour votre écoute.